La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. On a beaucoup parlé ces dernières années du manque d'argent dans les laboratoires de recherche, de la précarité du métier de chercheur, du manque de perspectives pour les jeunes, du carcan administratif et du décrochage de la France sur la scène internationale. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la place de la recherche dans notre pays, de l'image du métier de chercheur et de la façon dont sont financés les scientifiques? Dans le dossier de La Tête au Carré, nous allons faire un état des lieux de la recherche en France pour comprendre justement les arcanes de la science et le quotidien des chercheurs. Et vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages, vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé LATAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, les climatiseurs qui soufflent le chaud et le froid.
Et surtout le chaud. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie s'inquiète de leur impact grandissant sur le réchauffement climatique. On en discute avec un des rédacteurs de ce travail, il s'appelle Armin Meyer.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science, grand format de France 5, dans lequel nous accueillerons le réalisateur de ce documentaire dont nous avons parlé hier, consacré au Concorde et qui sera donc diffusé ce soir. Fanny Bouillon réalise l'émission préparée par Chantal de Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
État des lieux de la recherche française et de son financement cet après-midi dans l'émission avec mes invités, la géologue Emmanuela Mattioli et le biologiste Patrick Lemaire, porte-parole de Science en Marche. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Patrick Lemaire. Est-ce que le problème de la recherche française, c'est d'abord son financement ou son image auprès de ses dirigeants?
Les deux sont liés. C'est parce que les dirigeants ne comprennent pas très bien la recherche que nécessairement ils ont tendance à peut-être investir dans d'autres domaines.
Ça, c'est le talon d'Achille finalement aussi de la science. C'est cette mauvaise compréhension.
La mauvaise compréhension de l'impact de la science, de la manière dont nous travaillons dans la population, dans les décideurs économiques et les décideurs politiques.
Emmanuela Mattioli, la sélection d'un projet pour les chercheurs est souvent perçue comme un parcours du combattant. Est-ce que justement le système français est plus difficile dans ce domaine que chez nos voisins européens ?
Je ne crois pas que ce soit plus difficile que dans d'autres pays. C'est sûr que ça peut être difficile. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais voilà, il faut être très attentif quand on lit les appels d'offres, quand on rédige un projet. Un même contenu scientifique peut passer à un tel type d'appel d'offres et pas un autre guichet. Donc vraiment, il y a aussi non seulement le fond de la science, mais il y a aussi un format qu'il faut adopter.
Donc, on va en parler avec vous, hein, puisque vous avez fait partie de l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche, et on va discuter justement de ces coulisses aussi pour les chercheurs qui veulent voir financer leurs projets. Et puis bien sûr, on accueillera les messages des auditeurs avec les témoignages sur le site de l'émission franceinter.fr. Quand les climatiseurs réchauffent la planète, c'est une étude inquiétante aujourd'hui à la une de la science.
Ah, la climatisation. Être toujours à la bonne température. En été, la fraîcheur idéale.
La climatisation, c'est le bon temps, tout le temps.
Voilà, fabriquer du froid pour nos intérieurs risque bien d'accélérer le réchauffement à l'extérieur avec une consommation en énergie des clims qui va exploser d'ici une vingtaine d'années dans le monde. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié la semaine dernière s'inquiète justement de la demande grandissante autour des systèmes de refroidissement et surtout de leur faible efficacité. Et Axel, on en discute avec l'un des auteurs de ce rapport.
Oui Mathieu, nous sommes avec Armin Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste pour la division efficacité énergétique de l'Agence internationale pour l'énergie. Et vous avez enquêté pendant plusieurs mois, collecté des données sur la climatisation dans le monde. Et ce qui ressort de vos travaux, c'est plutôt inquiétant puisque vous prévoyez une explosion de la consommation d'énergie liée à la climatisation. C'est pourquoi ? C'est parce que le monde se réchauffe ou il y a d'autres raisons ?
Il y a plusieurs facteurs. D'abord, oui, la planète se réchauffe, mais aussi on voit aussi une croissance économique, surtout dans les pays du Sud, qui fait que les gens ont plus le pouvoir d'achat pour obtenir un système de climatique. En fait, ça s'est déjà explosé, on peut dire, depuis 1990, les ventes ont triplé des clims globalement.
Dans le monde. Hein.
Dans le monde, oui.
À combien est-ce que vous estimez l'augmentation du nombre de climatisateurs d'ici 20 ans?
Bon, aujourd'hui, on est globalement à un chiffre de 1,6 milliard de systèmes dans le monde. Et ça peut aller jusqu'à 6 milliards d'ici 2050. Si toutes les projections sont correctes que nous avons fait.
Alors si on résume assez basiquement comment marche un climatiseur, c'est prendre la chaleur à l'intérieur et la rejeter à l'extérieur en consommant de l'énergie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Oui, peut-être, oui. C'est une explication simple, mais en gros.
Comment on fait le lien direct avec le réchauffement climatique alors?
Bon, ça peut être un cercle vicieux dans le sens que, surtout dans les villes, on ressent l'effet que les villes sont souvent plus chaudes que les parcs et les forêts. Et les systèmes de climatisation ont un effet là-dessus. Donc l'air qui sort de l'immeuble contribue à ce réchauffement local. Mais globalement, ce n'est pas une liaison directe, sauf que quand vous utilisez des fossiles pour générer l'électricité, pour faire marcher ces systèmes, ça contribue à l'effet des gaz de serre.
Donc l'utilisation des énergies fossiles, hein, c'est voilà, ça voilà. Pour l'utilisation. Donc dans des villes qui sont chaudes, hein, parce qu'elles ont des structures justement qui retiennent la chaleur.
Exactement.
Accentuées aussi donc par le réchauffement lié au climatisateur qui expulse cet air chaud.
Voilà,
donc c'est une sorte de cercle vicieux finalement.
Hein. Oui, on se réchauffe plus pour se refroidir.
Oui.
Vous mettez dans le rapport aussi le doigt sur un point technique, c'est l'efficacité des différents climatiseurs disponibles. Qu'est-ce que vous définissez, comment vous définissez l'efficacité?
Il y a certaines modalités de faire ça, mais pour parler simplement, un système comme votre frigo ou comme votre lave-vaisselle, elle va utiliser une somme d'énergie pour faire un résultat, que ce soit les vaisselles propres ou la chambre refroidie. Il y a une différence entre combien d'énergie le système consomme pour obtenir le même but. Donc les systèmes très très efficaces, ils consomment beaucoup moins d'énergie que les systèmes qui ne sont pas efficaces.
Est-ce qu'on peut dire qu'une clim pas efficace est plus polluante qu'une clim efficace? Du coup, on peut le dire comme ça
Si ce système est alimenté par de l'énergie fossile, oui.
Est-ce qu'il existe des moyens écologiques de refroidir ou de construire une habitation qui reste fraîche sans utiliser de climatisation?
Ben nous, dans notre analyse, on parle beaucoup à des politiques d'autres pays, des gens qui font ce genre de politique, des standards minimum pour les arcos, les clims. Mais il faut considérer aussi l'architecture des immeubles, le design. Ça a un impact très important. Donc il ne faut pas seulement penser à la climatisation à la fin de la construction de l'immeuble, mais au début, pour voir s'il y a des options pour diminuer la demande de l'immeuble.
Pourtant, il y a des procédés ancestraux qui fonctionnent très très bien dans des pays chauds, où on sait construire des bâtiments avec là aussi des matériaux qui conservent la fraîcheur. Hein. Donc on pourrait aussi largement s'en inspirer du point de vue architectural aujourd'hui.
Oui, et je pense qu'il y a un trend là-dessus. Donc les gens commencent à réutiliser ces anciennes technologies et approches. Mais on a eu tendance, et on a toujours tendance à construire comme dans l'Occident, entre guillemets, les bâtiments très grands, en acier, etc.
Donc. Ouais, donc on a tout faux, du point de vue énergétique, c'est ça ce qui ressort
On ne dit jamais ça. Oui.
Non, on ne dit jamais ça, mais on pourrait le penser avec le réchauffement, justement. C'est-à-dire que les bâtiments ne sont pas forcément adaptés à ces demandes qui arrivent de fraîcheur.
Ça, c'est sûr, oui.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de climatiser? Parce que l'été, des fois, quand on rentre dans certains magasins, il fait carrément froid. Est-ce que ce n'est pas une consommation inutile d'énergie d'aller si loin dans la fraîcheur?
Certes, oui. Il y a des standards aussi. On peut dire, écoutez, pour avoir un bon niveau de confort à l'intérieur, il ne faut pas que ça soit à 16 degrés. Donc, ça peut être 19 degrés, 20 degrés. Donc, ces différences-là, entre quelques degrés, font une énorme différence au total.
Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'information à faire. Parce que le nombre d'endroits où on arrive, où on gèle de froid, alors que dehors, il fait extrêmement chaud, ça, c'est complètement sidérant comme situation.
Exactement.
Donc, il faut mener des politiques en ce sens aussi, d'information sur le gaspillage énergétique.
Oui, et aussi des moyens de comment dire ça en français?
Insensibiliser, non, c'est pas ça?
Sensibiliser?
Non,
d'inciter.
d'inciter les gens d'acheter des, ou de procurer des systèmes plus efficaces.
Merci Patrick Lemaire pour la traduction. Merci. Merci à vous, en tout cas Armin Meyer, donc ce rapport qui a été publié et merci. Qui inquiète, parce qu'effectivement, vu le nombre de clims aujourd'hui, 600 millions dans le monde, et qui pourrait passer, vous le disiez, à 6 milliards donc, d'ici quelques décennies, eh bien, il y a lieu de prendre vraiment ce problème à bras-le-corps. Merci d'être venu nous en parler à la une, et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à force d'être mangé, la salamandre géante de Chine est proche de l'extinction. L'animal, connu pour être le plus grand amphibien au monde et apprécié pour son goût raffiné, subit de plein fouet les ravages du braconnage. Des chercheurs de la Société Zoologique de Londres ont réalisé deux comptages en 2013 et 2016 dans les rivières de Chine. Résultat, l'espèce est extrêmement réduite ou fonctionnellement en extinction. Il se pourrait même que les seuls individus comptés par les chercheurs soient les salamandres d'élevage, laissant donc entendre que l'espèce sauvage aurait déjà disparu. Les preuves s'accumulent. Il y a 2 ans, des astronomes de l'Institut des technologies de Californie émettaient l'hypothèse d'une 9e planète dans notre système solaire, gravitant au-delà de Neptune. Eh bien, ils reviennent aujourd'hui avec un nouvel indice de taille, l'orbite inhabituelle d'un objet céleste nommé Caju, et qui serait influencé par la gravité d'une planète inconnue. Selon les estimations des scientifiques, cette 9e planète serait alors 4 fois plus grosse que la Terre et ferait le tour du Soleil en 10 000 à 20 000 ans. Et puis, retour sur Terre pour finir avec une intelligence artificielle qui serait capable de détecter les symptômes de malnutrition chez les enfants. La technologie en cours de développement par l'entreprise kenyane Kimetrica, en collaboration avec l'UNICEF, permettrait un diagnostic physiologique rapide et précis des enfants de moins de 5 ans à partir de l'analyse d'une simple photo de leur corps et donc ainsi éviter de nombreux décès. Dans le monde, 5 enfants meurent chaque minute de malnutrition. Allez, l'état des lieux de la recherche dans un instant, c'est le dossier de la tête au carré.
See you.
Put Your Money on Me, Arcade Fire.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Un état des lieux de la recherche en France pour discuter avec vous et mes invités de l'image du métier de chercheur, du financement des programmes de recherche, du quotidien des scientifiques dans le public aujourd'hui. Et j'attends bien sûr vos messages qui arrivent déjà avec des témoignages, des questions pour nos invités. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Nos invités, Emmanuela Mattioli, vous êtes géologue, professeur au laboratoire de géologie de Lyon et vous avez été membre expert du comité d'évaluation de l'ARN. Donc c'est l'Agence nationale de recherche. Vous connaissez bien le fonctionnement de cette agence. Patrick Lemaire, vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier, et vous êtes le porte-parole de l'association Science en Marche, et les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages. Patrick Lemaire, un mot d'abord justement sur la vocation de l'association Science en Marche, qu'on se remette un petit peu à l'esprit de quoi il s'agit.
Voilà, donc Science en Marche, c'est une association qui a été créée en 2014, avec pour but d'interpeller le public et via le public les responsables politiques sur l'état de la recherche, de l'enseignement supérieur en France.
Ben c'est exactement ce qu'on a envie de faire cet après-midi.
C'est cela.
Avec cette... Alors qu'est-ce que vous faites comme démarche justement de sensibilisation ?
Alors dans les démarches, donc initialement en 2014, peut-être un certain nombre d'auditeurs se souviendront de tous ces vélos avec des petits dossards verts qui traversaient la France en septembre. Donc on avait effectivement mis 1200, 1300 personnes sur des vélos pour traverser la France, aller au contact du public. Depuis, qu'est-ce que l'on a fait ? Finalement, Science en Marche a également beaucoup aidé à la création de la Marche pour les sciences l'année dernière. Marche pour les sciences qui devrait d'ailleurs reprendre du service en 2019 à l'occasion des élections européennes, pour sensibiliser juste avant ces élections. Et puis, quelque chose qui est dérivé de Science en Marche, c'est aussi réaliser que les sociétés savantes en France, qui sont des associations loi 1901, sont assez peu présentes dans le débat médiatique. Et donc d'encourager les sociétés savantes à se regrouper de telle manière à peser dans le débat et d'apporter leur expertise.
C'est ce que vous réclamez beaucoup aussi, hein, c'est ce dialogue finalement.
Oui, parce qu'il y a un déficit flagrant de dialogue entre les scientifiques et le public. Et ce déficit, il est dû en partie aux scientifiques eux-mêmes. On n'est pas très bon dans la communication. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on améliore.
Emmanuela Mattioli, vous êtes d'accord avec ça ? Si on parle directement de façon de communiquer chez les chercheurs, on ne va pas commencer forcément avec des critiques. Mais en tout cas, c'est un constat que vous faites aussi sur la difficulté pour les Français de...
Oui, absolument. Je pense que c'est en premier lieu aux scientifiques de faire un effort de communication. Et pour ça, parfois, c'est vrai qu'on n'est pas très, très bon. Et même, vous avez dit, je connais un peu le fonctionnement de l'ANR parce que j'ai fait partie à deux reprises, plusieurs
comité,
années suite de comités d'évaluation. Et c'est vrai que même l'ANR a peu communiqué. Et c'est qui est très récemment qu'elle a organisé, par exemple, des ANR Tour. Donc, ça fait 2-3 ans. Des représentants de l'ANR se déplacent dans les universités, sur le terrain, pour aller déjà expliquer comment il faut construire un projet pour pouvoir être financé.
Pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des chercheurs loin de là, en grande majorité auditeurs de France Inter, qu'est-ce que c'est que l'ANR ? Alors, parce qu'on va en parler au cours de cette discussion, Agence Nationale de Recherche.
On parle
de financement, on parle de budget. Quel est son rôle exactement alors, auprès des chercheurs ?
L'ANR a été créée en 2006 par le ministère, dépend du ministère de la Recherche. Et donc, a en charge toute la coordination, disons, du financement de la recherche en France. Alors, tout. Pas tout, parce qu'en fait, le budget de l'ANR alloué à l'ANR est le 3% du budget alloué par le ministère à la recherche dans sa globalité.
Oui.
D'accord ? Mais quand on parle de financement de projets de recherche, projets relativement conséquents, disons que la recherche de base dans les laboratoires est assurée par à la fois les établissements, les universités, les écoles, ou alors par le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Donc ça assure, disons, un fonds de roulement hein, pour pouvoir faire des analyses, des missions sur le terrain, par exemple, etc. Par contre, quand on veut financer de manière plus importante un projet de recherche très ciblé et très 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 pointu, eh ben on fait appel à l'ANR.
Oui. Voilà. Alors il y a beaucoup de critiques aussi à l'encontre de l'ANR. On va y revenir. Il y a pas mal de chercheurs qui trouvent que justement cette agence qui finance donc tous les domaines de la recherche devient une véritable roulette russe aujourd'hui. Vous répondrez tout à l'heure parce que c'est aussi l'objet de votre venue cet après-midi. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Je voudrais déjà vous les transmettre. Patrick Lemaire, il y a Pierre qui nous dit, puisqu'on parle un petit peu de vulgarisation, est-ce qu'il manque pas une presse scientifique accessible au grand public, pédagogique, surtout critique, sans forcément d'ailleurs rechercher le scoop lié à la dernière grande invention ou grande découverte? Est-ce que ça peut participer justement à une place différente de la recherche dans le monde public aujourd'hui?
Alors déjà, il existe une presse scientifique grand public, hein, que ce soit la recherche pour la science, Science et Vie. Il existe également The Conversation, la conversation, mm-hmm. qui est
sur
un journal
sur Internet,
ouais. mais qui va principalement être issu de la communauté académique. Donc cela, ça existe. Maintenant, si on veut, est-ce que ce type de littérature est capable de rendre compte de ce qui se passe réellement dans les laboratoires, mm-hmm. de la méthode que l'on utilise? Comment est-ce que l'on va développer un projet? C'est-à-dire, en fait, faire sentir aux gens réellement la manière dont un scientifique travaille? Non, ça va donner principalement des résultats de projet, pas comment on est arrivé à ces résultats. Et je pense qu'un problème majeur de compréhension de la recherche par le public, c'est justement d'être confronté aux résultats, mais de ne pas être tellement confronté à la démarche qui va conduire à ces résultats.
Et ça, ce serait important que le grand public connaisse ces rouages.
Eh bien oui, ouais. Ça c'est formidable. Parce que c'est,
pourquoi cette alors démarche, expliquez-nous, parce que c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu fastidieux de vue de l'extérieur
non, parce que
comme ça.
Cette démarche scientifique, c'est une démarche qui va à la fois, comme un petit peu toute activité humaine, partir de créativité, mais ensuite mettre des filtres, et des filtres qui vont dire « Ah ben non, ça c'est pas la meilleure interprétation, voilà l'interprétation qui est la meilleure, et voilà quelle expérience on pourrait faire pour tester ça, et ainsi de suite ». Simplement pour vous donner un exemple, imaginez qu'on fasse la même chose pour les politiques publiques. Bah, peut-être qu'elle marcherait mieux. Donc cette méthode scientifique, elle n'est pas utile que pour les scientifiques dans les laboratoires. C'est une recette générale pour aborder un problème complexe. Il y en a beaucoup hors des laboratoires.
Emmanuela Mattioli, là-dessus, justement, vous vouliez réagir?
Ben, je suis absolument d'accord. Et puis d'ailleurs, j'ajouterais que les gens connaissent mal le métier, ce qu'est le métier d'enseignant-chercheur ou de chercheur. Et on a toujours l'idée du chercheur un peu fou ou du chercheur dans sa tour d'ivoire. Or non, les chercheurs sont à leur échelle un peu des managers parce que ils doivent chercher de l'argent pour faire leur recherche, pour financer des doctorants, des post-doctorants. Ils font aussi beaucoup d'administration. Par rapport à la vulgarisation, par exemple, il y a des revues, des magazines, ok, mais il y a aussi des actions plus locales, hein, la fête de la science, par exemple. Moi, je fais partie d'un observatoire, et donc il y a toute une activité autour de la vulgarisation, et aussi, comme il est dit justement, Patrick, autour des méthodes. Donc, on montre vraiment aux scolaires, aux tout jeunes, quelles sont les méthodes. Bon, je suis géologue, par exemple, pour trouver des fossiles, les dégager, les rendre, les valoriser. Voilà. Donc, effectivement, il y a du travail dans ces domaines-là.
Alors, je vais vous transmettre les messages des auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de messages sur le quotidien aussi, la réalité aussi du travail, sur le statut de doctorant aussi. Il y a énormément de messages en ce sens. Patrick Lemaire, quand même un mot sur, puisqu'on parle de transmission du savoir, le degré de connaissance de nos dirigeants, justement, autour de la science. Ça, c'est pas un des vrais problèmes aussi aujourd'hui, finalement?
Alors, c'est un problème majeur. Alors, ce problème, c'est assez facile de donner un sentiment par rapport à d'autres pays. Si vous regardez les entreprises du DAX, alors c'est le CAC 40 allemand, presque la moitié sont dirigées par des gens qui ont un doctorat. Alors un doctorat, on reviendra au doctorat, hein, je pense, c'est 3 ans de recherche où on comprend comment se fait la recherche et où on acquiert cette méthode. Si on regarde en France, le CAC 40, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. S'il y en a, il y en a peut-être un ou deux, mais c'est tout. Regardez les ministres en Allemagne, beaucoup ont des doctorats.
Angela Merkel
a un doctorat en chimie quantique. Et si on regarde les courbes de financement, bizarrement, de l'Allemagne, elles ont toujours été meilleures que nous, mais ouais. depuis que Angela Merkel est à la tête du pays, eh bien, on voit un investissement massif dans la recherche.
Ouais. Alors, ça dit quoi, justement, de ce statut de doctorant aujourd'hui en France? Parce que vous demandez à un Français dans la rue ce que c'est qu'un docteur, il va vous répondre que c'est un médecin évidemment.
Voilà.
Hein. Alors que dans d'autres pays, c'est le contraire. Hein. En Allemagne, par exemple, on sait exactement ce qu'est un docteur.
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est le doctorant. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un doctorant ou une doctorante? Donc, c'est quelqu'un qui est en train de préparer son doctorat. C'est-à-dire qui est dans un laboratoire, qui va rester 3-4 ans dans le laboratoire, qui a un projet. On lui donne un projet à son arrivée. Et puis, il va falloir développer toute la méthodologie, développer tous les outils, de telle manière à répondre, à faire progresser les connaissances de l'humanité. Mmh. Alors qu'il n'y a pas les outils au départ. Donc ça, c'est la grosse différence avec un ingénieur. Un ingénieur, il va utiliser des théories qui existent, il ou elle, et il va appliquer ces théories. Le doctorant apprend à créer des théories. Et ça, c'est fondamentalement différent. Et c'est pour ça que, eh bien, si on regarde des entreprises qui sont particulièrement en pointe, à l'étranger, ils vont principalement recruter des docteurs. Alors qu'en France, comme il n'y a pas cette culture, ça va principalement être des ingénieurs. Et la R&D française, eh ben, quelque part, elle en souffre.
Emmanuela Mathioli, le peu de valorisation du doctorat, vous êtes d'accord aussi avec ça ou pas?
Mais moi, je suis d'accord qu'un doctorat prépare un chercheur, une chercheuse, mais également un citoyen. Et donc, je suis tout à fait d'accord que des docteurs pourraient être employés dans des postes clés, à la fois en politique, mais aussi dans les entreprises. Et pour être plus explicite, le doctorat, c'est ce qu'on appelle le bac plus 8, hein, donc dans le système de Bologne. Donc il y a licence master, 3 ans, 5 ans, plus 3 ans, donc le doctorat. Donc le doctorat, je rajouterais, c'est pas un but en soi-même, parce que les docteurs, les jeunes docteurs qui ont envie ensuite de continuer en recherche, sont amenés en fait à trouver ce qu'on appelle les post-doctorats. Donc en fait, c'est une préparation qui est beaucoup plus longue à la fin. Donc des post-doctorats à l'étranger en général, et qui permettent aussi d'avoir des expériences sur d'autres systèmes de recherche.
Jean-Claude nous dit sur franceinter.fr, justement, mon fils est titulaire de deux masters et d'un doctorat obtenu en 2017 en ethno-écologie. À 28 ans, il ne trouve pas de financement pour un post-doc, il n'a pas d'ouverture de poste dans les universités. Il est donc contraint de prendre des CDD dans des parcs naturels pour vivre aujourd'hui.
Oui, c'est un parcours qu'effectivement on a tous eu, hein, c'est malheureux, mais je trouve qu'il a vraiment raison, Patrick Lemaire, parce qu'il faudrait penser différemment. Par exemple, dans l'école secondaire, s'il y avait des docteurs qui étaient recrutés, on pourrait peut-être plus facilement faire la passerelle entre bac et université.
Allez, on se retrouve dans un instant, on poursuit notre discussion parce qu'il y a beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque, le temps d'écouter Roméo Elvis et dessert.
Hey, je suis avec cette femme pour une longue story. Des fois on se fait mal et puis on se corrige. Je suis avec cette team pour de longues années. On fronce ma mène, on fait le taf grave et on pionce après. J'ai les vannes, la gueule, le don ça paye. Je veux l'or, l'argent et le bronze après. Y'a plus d'énergie que si on s'arrête. Y'a trop de rappeurs doués pour faire le boss. Mais ça me fait pas peur, je suis une bête de scène. C'est mon oreille qui siffle comme une fête de gosse. Mais ça me fait peur, je suis en quête de zen. Mec, s'te plaît, c'est de gueuler fort quand tu viens au concert. Je suis handicapé. C'est ma technique pour chauffer la salle chez les gens d'ici ou les gens du Cap Vert. Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des murs de verte. Chaussures Puma sur les pieds, j'applique quand même des dress codes. Ouais maintenant, je peux pas laisser passer cette prod. J'habite seul, c'est plus facile, mais j'applique quand même des dress codes. Ouais mais ouais, le thème est plus ou moins trouvé. 2h30 de pause en tout, mais ça m'a pris toute la journée. Moral de luxe 2018, yeah yeah. J'suis entouré que des meilleurs comme le Touré, yeah yeah. J'ai juste envie de faire des scènes, passer tout de suite au dessert. J'arrive même plus à fantasmer sur une jolie playa, yeah.
chaussures Puma sur les pieds. J'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des murs de verte. Chaussures Puma sur les pieds. J'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des murs de verte.
Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. N'empêche que tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau.
Roméo Elvis à l'instant.
La tête au carré.
Ici, au CEMES, physiciens et chimistes fabriquent des matériaux à l'échelle atomique et leur donnent toutes sortes de propriétés. Ils font partie des 26 000 chercheurs qui travaillent à Toulouse. Comme les prix Nobel, ils dénoncent les coupes dans le budget de la recherche. C'est un véritable gâchis pour la nouvelle génération de doctorants.
Les jeunes doctorants qui sont formés dans nos laboratoires préfèrent poursuivre leur activité dans des pays où la recherche et l'enseignement supérieur sont soutenus, que ce soit dans des pays européens comme l'Allemagne et l'Angleterre, au moins ces deux-là, eux, augmentent le budget pendant que nous, on baisse, ou bien dans des pays outre-Atlantique, voire Singapour ou autre. Et l'industrie, à terme, sera effectivement impactée. Donc c'est dans ce sens-là, c'est un suicide industriel à moyen terme.
Le CNRS, l'INRA et le CEA sont les principaux organismes touchés.
Dans des collaborations internationales comme l'océanographie, le monde dans lequel j'évolue, on voit bien que tous les autres partent en mer, nous on reste à terre. Donc les Français sont complètement à la rame, à quai, ils restent là et ça va être de pire en pire.
Et ça, c'était en 2016, au moment des coupes budgétaires, donc sous le gouvernement de François Hollande. Patrick Lemaire, Emmanuel Mathioli, pour parler avec nous de l'état de la recherche publique aujourd'hui, dans la tête au carré. Est-ce que les choses ont beaucoup changé, Patrick Lemaire, en deux ans, si on fait le bilan donc aujourd'hui?
Alors, certaines choses ont changé, un tout petit peu. C'est-à-dire que si en 2017, il y a eu un accroissement relativement conséquent du budget.
Combien à peu près?
Si je me souviens bien, c'était de l'ordre de 800 millions en plus. Alors il faut voir que 800 millions, on part de 26 milliards. Mmh. Donc c'est quand même pas un pourcentage énorme. Mais ça a juste permis que sur le quinquennat de François Hollande, il n'y ait pas de baisse des budgets. Ça a ramené à zéro par rapport au début du quinquennat. Il y a eu une petite augmentation cette année. Mais si on compare sur les 20 dernières années, toujours avec des pays autour de nous, on réussit à sanctuariser. Les politiques aiment beaucoup ce mot de sanctuariser.
Ça veut dire quoi d'ailleurs concrètement?
Stagner,
ça, ouais.
Stagner, ça veut dire ouais. En pratique.
C'est-à-dire figer les choses.
Ça veut dire on fige les choses pendant que les autres investissent.
C'est bien le terme sanctuariser. Hein.
C'est un beau terme.
Oui, très.
C'est un beau terme pour dire stagner. Et si on regarde maintenant, toujours par rapport à d'autres pays. Combien chaque Français contribue à la recherche? C'est-à-dire, on va prendre le budget de la recherche, puis on va le diviser par le nombre de personnes dans un pays.
Et ce qu'on donne donc en tant que citoyen par an?
Quelque part,
c'est
un petit peu ça. Si on regarde dans la recherche publique, en France, ça sera 250 euros par an,
par personne.
Par Français. En Allemagne, ça sera 337, par personne toujours. Aux États-Unis, ça sera 400. En Suisse, ça sera 460. Donc, on voit bien qu'il y a un différentiel énorme dans les moyens que chaque pays investit. Alors, il y a un autre chiffre qui est amusant, on en reparlera peut-être après, c'est par rapport aux armées. Alors, si on regarde en France...
Alors, même chose, par citoyen,
par
finalement,
citoyen.
Ce que chaque Français donne à l'armée, pour le budget de l'armée.
Chaque Français donne 520 euros par an pour le budget de l'armée, plus de deux fois plus
que
l'ensemble de la recherche. Ouais. En Allemagne, ça sera 450. Ouais. Eux, par contre, c'est beaucoup moins que ce qui est donné pour la recherche. Et puis, en Chine, ça sera 80. On imagine que l'armée chinoise est très puissante. Oui, mais c'est 80 euros par personne. Donc, on voit qu'il y a eu une décision politique, quelque part, très gaullienne, de dire le rayonnement de la France, finalement, c'est son armée. Et ça, ça s'est renforcé encore l'année dernière, avec ces décisions de rajouter beaucoup d'argent dans les armées. Mais en y réfléchissant un petit peu plus, peut-être que dans le monde moderne, ce qui fait la réputation d'un pays, ce n'est pas forcément son armée. Peut-être que c'est son économie et puis son rayonnement intellectuel.
Eh bien, on va écouter Cédric Villani, justement, qui, toujours en 2016, s'exprimait exactement sur ce type de propos au micro de France Inter dans la matinale.
Le coup de sang, il est venu de ce qu'il y avait une annonce très brutale qui arrivait d'annulation de crédit de la recherche. Et puis, on se retrouvait encore face à ce problème qu'on dénonce régulièrement, que le budget de la recherche, avec ses conséquences qui se font sentir seulement sur le long terme, a tendance à être vu trop facilement comme une variable d'ajustement. Quand on voit que d'un côté, vous avez l'Allemagne qui fonce vers la barre symbolique des 3% du PIB consacré à la recherche et au développement, et de l'autre côté, la France qui reste coincée à un niveau bien inférieur. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme projet pour la société et pour la France avec sa place dans le monde. La recherche est une activité qui fait partie du prestige d'une nation, qui fait partie du bien-être à long terme de ses citoyens et qui fait partie de la place qu'on tient dans le monde qu'on veut occuper. Et si la France veut exister dans le monde de demain, elle ne pourra pas le faire sans développer une recherche de qualité. Et si la France veut que sur le long terme, ses citoyens aient un bon accès aux technologies modernes, est un accès aux avancées de la médecine ou de la chimie, qu'on aborde les questions énergétiques de long terme et tout ce que vous voulez, il faut une recherche de qualité, c'est un investissement d'avenir qui ne peut pas se négocier pour une société.
Voilà, c'était mai 2016, donc il y a deux ans, au moment de la signature de cette tribune, il y avait eu plusieurs prix Nobel, plusieurs médaillés, dont Cédric Villani, pour justement alerter contre les coupes budgétaires effectuées par le gouvernement de François Hollande. C'était donc avant, évidemment, que Cédric Villani soit député. Emmanuel Mathioli, un commentaire, ce qui résume assez bien, finalement, ce que ressentent les chercheurs aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que dans les dernières années, on a vu les budgets alloués à la recherche fondre. Par contre, par rapport aussi aux chiffres donnés Patrick Lemaire...
Mais pourtant, il nous dit qu'il y a une augmentation de 800 millions, alors ça ne fond pas totalement.
Oui, justement, là, il y a une inversion de tendance. Disons que cette année, je pense qu'il y a une petite inversion de tendance, aussi annoncée à l'ANR, une augmentation de budget à l'ANR de 5%, etc. Mais attention, quand on parle du budget de la recherche, je pense que les chiffres donnés par Patrick étaient les chiffres globaux, c'est-à-dire que ça inclut aussi les salaires. Mmh. Alors, ce qui est aussi différent, on ne peut pas se comparer directement comme ça à la Suisse ou à l'Allemagne, parce que les salaires sont plus élevés. En France, ce qui est relativement plus faible, c'est aussi les salaires, d'accord, des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Cependant, on se compare à l'Allemagne ou à la Suisse, si on se compare à d'autres pays qui sont quand même pas des pays sous-développés encore, mais enfin, je peux parler de l'Italie, enfin, la situation en France est différente. Enfin, pour moi, la France, c'est...
Vous voulez dire que c'est pire en Italie?
Ah ben, c'est beaucoup pire. Donc là, on se compare au pays, et c'est juste, hein, il faut toujours tendre à l'excellence. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait qu'en Europe et à côté de nous, il y a des pays qui sont vraiment mal lotis en termes de recherche.
Donc, bon, cela dit, c'est pas une raison pour se contenter de ce qu'on
non,
dit.
Non, c'est pas du tout ce que je dis. Par contre, il faut être conscient de ce qui marche en France, et peut-être que, je ne sais pas si on arrivera à le garder, c'est-à-dire les emplois quand même dans le secteur de la recherche, ce qui n'est pas forcément maintenu dans d'autres pays.
Un témoignage de Christophe qui nous dit « Nous, chercheurs et enseignants-chercheurs, sommes les seuls à devoir nous trouver de l'argent pour pouvoir travailler, aller demander à une secrétaire de financer son ordinateur, à un instituteur de trouver des financements pour avoir du matériel pédagogique, à un animateur de radio de trouver le financement pour acheter son micro, c'est scandaleux et ça nous tue. Donc, en conclusion, pour avoir de l'argent, nous travaillons pour le privé, dit-il, ce qui peut poser aussi des problèmes et des questions de fond. Patrick Lemaire, réponse très rapide avant de marquer une petite pause.
Alors, c'est vrai que la recherche est une administration très particulière, puisque effectivement, on est responsable, on est des chefs d'entreprise.
Et on doit chercher
quelque
son
part,
budget.
On doit trouver notre budget. Pour revenir à ce qui était dit sur l'ANR, l'ANR, dans certains domaines, finance pratiquement l'intégralité des recherches. Il faut voir que le CNRS, ce qui est alloué au laboratoire, c'est moins de 5% du budget du CNRS, c'est 150 millions par an. pour faire tourner ces laboratoires en France. Donc c'est extrêmement peu. L'ANR a un budget de 600 ou 700 millions. Donc c'est pas une goutte d'eau en fait, du tout.
Mmh. Allez, on se retrouve dans un instant, on poursuit la discussion et d'autres messages auxquels vous répondez sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr. La vie en rose est la version, bien sûr, que vous avez reconnue, celle de Grace Jones.
La Tête au Carré sur France Inter.
Hello to everyone. This is a message for American researchers working on climate change. I do know how your new president now has decided to jeopardize your budget, your initiatives. A message for you guys. Please, come to France. You are welcome. We like innovation. We want people working on climate change, energy, renewables, and new technologies. France is your nation.
Voilà ce message d'Emmanuel Macron qui fait les délices de Patrick Lemaire avec Let's make our planet great again. C'était le 1er juin dernier. On l'a pas traduit volontairement, hein, parce que bon, en gros, le message c'était après que les États-Unis aient décidé de se retirer de l'accord sur le climat. Emmanuel Macron invitait les chercheurs étrangers à venir chez nous travailler. Hein. Est-ce que ça porter ses fruits et ça a fait ses preuves, ce message, Patrick Lemaire, alors, Emmanuel Macron
ou pas? La première chose, c'est, hey guys, c'est quand même, hein, voilà, c'est quand même une opération de com absolument formidable. Mmh. Quelque part, ça fait aussi plaisir de voir un président français qui est capable de parler en anglais. Alors bon, là l'accent était peut-être un petit peu...
Oh, soyez pas tatillon, c'était pas si mal que ça.
Mais son discours face au Congrès était remarquable aux États-Unis.
Ouais.
Ceci dit, de quoi ça a accouché cette histoire? Ça a accouché
concrètement, ouais.
Concrètement.
On les a fait venir, les chercheurs étrangers.
Alors, donc, le budget de la recherche en France, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. Mm. L'investissement Make Our Planet Great Again, c'est de l'ordre de 30 millions.
Oui.
Donc, c'est pas beaucoup. Le but était de recruter 40 ou 50 personnes. Péniblement, il y en a 18 qui ont été trouvées. Sur ces 18, il y a un bon nombre de Français. Parmi les Américains, il y en a qui voulaient déjà venir en France avant.
Oui.
Donc, en gros, c'est scientifiquement, c'est un fiasco total, quoi,
bon,
cette histoire.
Donc, vous êtes d'accord également avec ça, Emmanuel Mattioli?
Bah,
on n'attire pas vraiment les scientifiques étrangers sur notre territoire.
Bah, c'est-à-dire que les salaires ne sont pas comparables aux salaires en Suisse. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que les Américains sont bien recrutés, par exemple, en Suisse.
Ouais.
Voilà.
Beaucoup de messages.
Allemagne.
Patrick nous dit « Je suis docteur en sociolinguistique. Le gros problème, c'est que le doctorat en France est le seul diplôme non professionnalisant. Il n'existe pas. » sur les grilles de salaire dans le privé. C'est donc pour cela que 50% des jeunes doctorants partent à l'étranger. Est-ce que vous pouvez commenter cela? Patrick Lemaire, un petit mot.
Alors, c'est vrai que le doctorat est reconnu dans peu de conventions collectives.
Mmh.
Donc ça, c'est un problème, effectivement. Et qu'il y a un taux de chômage 3 ans après la thèse en France qui est 3 ou 4 fois supérieur aux pays autour de nous. Donc ça, c'est un gros problème. Maintenant que les jeunes docteurs partent à l'étranger après leur thèse, c'est aussi quelque chose qui fait partie du métier. C'est normal d'aller voir dans d'autres pays ce qui se passe. Ouais. On a la chance d'avoir une activité qui peut être transposée partout. Et c'est aussi une opportunité de découvrir le monde.
Sauf qu'il y a beaucoup de messages d'auditeurs qui nous disent bah, on aimerait bien rester dans le service public français qu'on aime bien.
Mais ça, c'est pas incompatible. J'ai passé 7 ans de ma vie à l'étranger et je suis dans le service public français.
Parce que vous êtes revenu.
Parce que je suis revenu. Donc le problème, c'est pas que les gens partent. Le problème, c'est est-ce qu'on leur donne la capacité de revenir.
Météo nous dit le statut de post-doctorant est lamentable, extrêmement précaire. 2000 euros net après minimum 8 années d'études et d'expérience. La pire est l'application de la loi Sauvadet qui est en train de tuer à petit feu toute la recherche publique française, les techniciens, ingénieurs post-doc ne peuvent pas travailler plus de 5 ans pour les organismes publics.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais quand on part sur une carrière de chercheur, voilà, c'est pas une carrière comme les autres. Effectivement, il faut faire des sacrifices dans le sens d'être avoir envie aussi d'aller à l'étranger. Après, voilà, on n'est plus dans un monde où chaque État fonctionne en autarcie, je dirais. Là, vraiment, on est dans un système ouvert où il y a des pays émergents. Donc des gens, par exemple, des Chinois, on en voit de plus en plus qui viennent en Europe et entre autres dans d'autres universités. Et on met en place des dispositifs pour les attirer. Et pareil, dans un métier d'enseignant-chercheur ou de chercheur, il faut être prêt à partir à l'étranger. Il y aura beaucoup plus d'échanges dans les années qui viennent.
Un message positif de Mélanie qui nous dit « Une thèse, c'est quand même aussi une école de la vie. Même si je ne fais plus de recherche, mon doctorat en biologie m'a énormément apporté dans ma vie privée tous les jours. Chercher l'information, se poser les bonnes questions, apprendre à persévérer, à se relever également après un échec. »
Absolument. Voilà. Et puis, je fais le lien avec ce qu'il disait Patrick tout à l'heure. Un docteur pourrait être employé dans plein de domaines différents. Alors,
Patrick Lemaire.
Non seulement il pourrait, mais il devrait.
Il devrait.
Et ça serait la société qui en bénéficierait. Bien outre sûr. Le fait que le doctorat aurait plus d'attractivité, dans les pays où c'est le cas, il y a plus d'attractivité. Ouais. La deuxième chose, c'est Science en Marche a fait une étude justement sur ce qu'on appelle les précaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de poste et qu'est-ce qu'ils deviennent. Et un certain nombre de docteurs qui ont choisi le privé ont répondu. Et on était surpris de voir la majorité d'entre eux, pas tous, il y a des situations dramatiques, mais la majorité d'entre eux étaient extrêmement contents de leur choix. Donc il y a aussi une culture dans les laboratoires qui doit être de dire au docteur, vous avez de la valeur, vous n'êtes pas qu'un rat de labo. Et vous pouvez faire autre chose.
Emmanuela Mattioli, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes, hélas, il faut parler de l'ANR. Un mot sur les critiques adressées justement à l'Agence nationale pour la recherche. Distributeur de crédits qui, depuis sa création, n'a jamais démontré qu'il distribuait mieux les crédits que les systèmes précédents, mais qui coûte vraiment beaucoup plus cher, provoque le gâchis de milliers d'heures de travail pour monter des dossiers qui ne sont pas financés. Une véritable loterie, ça c'était le chercheur Yézekiel Benhari, grand neurobiologiste qui se plaignait justement de l'aspect loterie. Alors qu'est-ce que vous répondez aux critiques? Parce que c'est aussi l'objet de votre venue ici sur l'antenne.
Je réponds aux critiques en disant que dans les comités ANR, par exemple, il y a à peu près 50% de personnalités extérieures, de scientifiques qui viennent d'universités, Belgique, Grande-Bretagne, même États-Unis, voilà. Donc les critères qu'on adopte à l'ANR ne sont pas foncièrement différents par rapport à ce qui est adopté dans d'autres pays parce que c'est la même communauté de scientifiques. Après, je dirais que le processus de sélection est un processus très long et très détaillé.
Trop long d'ailleurs, certains disent que c'est trop long, on perd des heures de travail, c'est épuisant, non? Et ça c'est de l'argent aussi concrètement, non, de perdu?
Oui, mais on distribue de l'argent public, donc il faut être, on est conscient de ça. Et dans les comités, moi je vois le travail au jour le jour des comités, ils travaillent avec beaucoup de passion, sans compter les heures, parfois le soir très tard pour évaluer des projets, etc. Donc on fait une évaluation qui est vraiment approfondie, on en discute, on prend des décisions qui sont collégiales. Et on essaye de classer des projets sur la base de critères d'excellence scientifique, d'innovation.
Mais sauf qu'il y a des très grands chercheurs, par exemple, ça peut paraître caricatural, mais de très grands chercheurs qui ont publié, qui ont été même en couverture de très grandes revues, qui n'ont même pas de financement de l'ANR aujourd'hui.
Mais il faut laisser leur chance, la chance à tout le monde, je veux dire. Sinon, on prendrait juste l'index de citation de chacun d'entre nous et puis on donnerait de l'argent en fonction de cette... Et c'est pas ça, la recherche.
Patrick Lemaire, le mot de conclusion, désolé parce qu'on a moins de discuter plus longtemps.
Alors, dans ce cas-là, je vais passer sur l'ANR.
Très vite.
Je vais simplement parler de culture scientifique. De dire qu'un grand nombre des problèmes auxquels on est confronté, c'est vraiment des problèmes de culture scientifique dans le pays. Et que l'ANR peut jouer un rôle là-dedans également. Si on prend la fête de la science, c'est un budget qui est microscopique. Pourquoi ne pas mettre 5% de tous les projets ANR nécessairement comme étant de l'argent investi pour de la médiation scientifique?
Bah écoutez, c'est votre proposition. Hein. On se quittera là-dessus et on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a beaucoup de messages et on laissera d'autres places à cette discussion prochainement dans La Tête au Carré. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Patrick Lemaire et Emmanuel Mathioli. Merci aux auditeurs, nombreux messages sur le site.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Voilà, nous en parlions hier dans l'émission Concorde, le rêve supersonique. Et vous êtes le réalisateur de ce film, Thomas Rich, à voir ce soir à 20h50. Bonjour.
Monsieur.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur l'histoire de cet avion, alors?
Déjà, je suis un passionné de tout ce qui vole. Cerf-volant, drone, fusée et avion. Alors, lorsque le producteur m'a parlé du Concorde, c'était un peu comme une évidence. C'est pas le Concorde, pour moi, c'est pas simplement un avion, c'est un objet iconique. C'est un trait d'union, les passionnés disent que c'est un trait d'union entre le ciel et l'espace, et c'est vraiment ça, c'est une aventure formidable, humaine et scientifique, et le seul avion commercial capable de transporter des passagers à deux fois la vitesse du son.
Alors justement, Mach 2, deux fois la vitesse du son, en costume cravate, on va écouter Jean Pinet, pilote de chasse et spécialiste du passage du mur de son, qu'on entendra ce soir dans le doc.
Moi je volais donc à Mach 2 sur un avion de chasse, avec un siège éjectable, avec une combinaison anti-jet, avec un masque, etc., un casque. Et imaginez donc qu'il allait y avoir des passagers, une centaine de passagers ou plus dans cet avion en costume, cravate, etc. Pour moi, ça dépassait un petit peu ce que, à l'époque, je pensais être possible.
D'autant qu'il ne s'agit pas d'un vol d'essai ordinaire. Pour la première fois, le Concorde va tenter de franchir le mur du son.
Voilà, Thomas Rich, à quel type d'archives est-ce que vous avez eu accès justement pour le documentaire? Parce qu'on voit des choses inédites. Hein.
Ouais, il y a des choses inédites. Vous savez, on connaît tous notamment le discours de Kennedy lorsqu'il lance son pays dans la course à la Lune en septembre 62. Et ben, c'est moins connu, mais il a fait également, moins d'un an plus tard, un discours qui lance son pays dans la course au supersonique face aux Européens avec le Concorde, l'avion franco-anglais, et face aux Russes avec leur Tu-144. Donc voilà, c'est ce genre d'archives qu'on a essayé de mettre en image. Il y a notamment aussi une intervention de Kennedy qui est au téléphone, enregistrée par les services de la Maison Blanche, où il s'énerve parce qu'il vient d'apprendre que la Paname vient de commander quelques Concordes.
Voilà, et vous avez aussi une très belle modélisation de l'appareil, hein, qu'on voit vraiment se construire sous nos yeux. Exactement. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir découvrir ce supersonique. Donc ce sera ce soir. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, Thomas Rich, s'appelle Concorde, le rêve supersonique, et c'est France 5 qui le propose dans son rendez-vous Science Grand Format, ce soir à 20h50. Merci à vous, Thomas Rich. Bonne journée.
Merci, Mathieu.
Au revoir.